the wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Pendant que le ciel s'obscurcit et que la nuit tombe tranquillement sur Québec, je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode de la nouvelle saison de Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On a changé un peu la formule en ce début de saison, mais on garde toujours les thématiques qu'on avait l'année dernière avec les ovnis la semaine passée. Cette semaine, on se concentre sur la cryptozoologie et les phénomènes paranormaux. Et voici l'extrait qui va mettre la table pour les sujets de l'actualité entourant ce merveilleux monde ce soir.
Avant qu'on commence, n'oubliez pas que peu importe ce qu'il vous dit, vous n'en tenez pas compte. Il va manipuler votre cœur, puis votre esprit. Ici l'apôtre Bernice James. L'autre personne présente est Bonnie Jackson, sa mère. Seigneur, nous demandons que tu nous sanctifies pour mener à bien cette délivrance. Et Bonnie, reculez.
Si vous avez la foi, alors vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés.
Monsieur Christian Page, bon début de soirée.
Bonsoir Camille, est-ce que tu as été sauvée?
J'ai été sauvée.
Ah, faut avoir la foi chevillée au corps.
Oui. Je ne sais pas si on va continuer de me sauver pour le reste de ma vie, mais pour le moment, je pense que dans le balancier, ça va bien.
OK, bon, on vient. N'entrons pas dans les détails.
Non.
Mais ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est la bande-annonce d'un tout nouveau film qui vient de prendre l'affiche sur Netflix. À partir d'aujourd'hui, c'est un film qui s'intitule « La délivrance », « The Deliverance ». Et c'est un film qui est basé sur l'histoire de Latoya Hammonds. C'est une histoire dont j'avais parlé à l'époque, il y a quand même quelques années, lorsque l'affaire avait défrayé la manchette. On en avait parlé, j'en avais parlé avec Yannick Marceau à l'époque. Et je crois qu'on en avait parlé également ensemble il y a quelques temps. C'est une histoire qui avait fait énormément réagir parce que c'est une histoire contemporaine, moderne, d'un phénomène de soi-disant possession diabolique avec tous les phénomènes de poltergeist qui sont souvent associés avec coups frappés dans les murs et tout le reste. Et toute cette histoire-là, bon, d'abord, disons que pour le film, ça vient de prendre l'affiche aujourd'hui. On est loin de la réalité, hein, faut quand même le dire.
C'est là. Un basé à sens très large.
Ouais, parce que quand le film commence, il y a même deux, trois petites choses qui m'ont un peu agacé, puis je vais t'expliquer. Hein. D'abord, je l'ai regardé cet après-midi. J'ai pas été très impressionné pour plusieurs raisons. Mais bon, le film, c'est un... On débute en disant, bon, ce film est basé sur une histoire vraie. Et ensuite, bon, il y a tout le développement du film. À quelques reprises, on en a parlé ensemble. Il faut toujours se méfier de ces soi-disant films basés sur une histoire vraie ou inspirés d'une histoire vraie. On ne sait jamais quelle est la part de réel et quelle est la part de fiction. Et dans le cas présent, on est beaucoup, beaucoup dans la fiction. Et on est tellement dans la fiction que, bon, dans un premier temps, on a transposé les événements qui se sont produits initialement. Hein. Je vais revenir sur les événements eux-mêmes, mais ça se passe entre 2011 et 2012. Et on est à ce moment-là à Gary, qui est un agrandissement d'Indianapolis. Là. C'est une communauté, là, c'est une banlieue d'Indianapolis. Et il faut quand même le dire, hein, Gary, aux États-Unis, là, au prorata, considérant la population, c'est l'une des villes les plus criminalisées des États-Unis.
Ah, ouais.
Gary, en Illinois.
Au prorata.
Oui, c'est ça. Donc, on est près d'Indianapolis. Donc, pour les besoins du film, on nous a transposé les événements. On nous place à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les noms ont été changés. Bon, et là, ensuite, il y a le déroulement de l'histoire elle-même. les éléments forts de cette histoire, c'est-à-dire que la famille Hammonds était très croyante. Ces éléments-là sont amenés dans le film à travers la grand-mère, parce que originalement, là, dans la vraie histoire, Latoya Hammonds emménage dans cette petite maison de Gary. Hein, on se trouve au 3860 Carolina Street en Indiana. Comme je l'ai mentionné, c'est une ville, une petite ville, arrondissement pratiquement d'Indianapolis, très criminalisée. C'est une toute petite maison, un tout petit bungalow. Et j'allais presque dire, tu sais, le genre de bungalow qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, qui sont souvent occupés par des familles un peu désœuvrées. Là. On est un peu dans le ghetto, là, et c'est un peu le cas présent. Ici, c'est une petite maison de location. La famille Hammonds y emménage. Latoya Hammonds, elle a 3 enfants qui sont âgés respectivement de 7, 9 et 12 ans. Dans le film, Madame Jackson, Latoya Hammonds s'appelle Madame Jackson, et Madame Jackson, elle a 3 enfants aussi, mais un peu plus âgés. Il y en a un, je dirais, qui est à peu près 9 ou 10 ans, et les autres, ce sont de jeunes adolescents. Un plus vieux qui a à peu près 17 ans, 16-17 ans.
Et avis aux gens qui sont visuels, Christian, la maison est toujours debout et disponible sur Google Street View. Non, elle ne l'est pas.
Non.
OK, mais c'est le terrain vacant à côté. Mais on peut comprendre avec le voisin que...
Oui, hein? Et il y a comme une espèce de fraude dans cette histoire-là, puis je vais te la mentionner.
OK.
Donc, lorsque Mme Latoya Hammonds emménage, elle a ses 3 enfants avec elle. C'est une mère divorcée. Et elle a avec elle sa mère, hein, qui s'appelle Rosa Campbell, qui emménage. Donc, ce sont ce groupe de 5 qui vont emménager dans cette maison du 3860. Comme tu le dis, si on va sur Google View, tu vois un lot vacant. Il n'y a plus de maison à cet endroit-là. La maison a été détruite.
Okay, c'était vraiment côte à côte de même, là.
Oui, la maison, en fait, a été détruite en 2016.
D'accord.
Et donc, lorsqu'ils emménagent, bon, c'est une famille très croyante. Dans le cas du film, ces éléments-là sont... Bon, les enfants sont un peu plus âgés que dans la vraie histoire. Pour une raison que je m'explique mal, bon, évidemment, ça doit être... Je suis un vieux, moi, là, hein, j'ai 61 ans, ça doit être la culture wokeiste ou je sais pas trop, mais dans la version Netflix... La grand-mère qui est originalement s'appelait Rosa Campbell, ben dans le film, cette grand-mère, elle est incarnée par Glenn Close, qui est une femme blanche. Là. Donc, on est une famille, c'est vraiment une famille afro-américaine, mais la grand-mère est blanche, donc on comprend qu'elle a eu une relation mixte et que sa fille est née, qui est métisse, et elle a eu des enfants. J'ai pas trop compris le pourquoi avoir fait ça, parce qu'originalement, c'est une famille afro-américaine un peu défavorisée, mais pourquoi avoir introduit là, Glenn Close dans ce jeu, dans ce rôle-là de femme blanche? Ça permet peut-être un peu d'amener à un moment donné, il y a comme un argumentaire un peu raciste, dans le sens que la femme explique ce qui se passe chez elle et elle n'est pas prise au sérieux. Et puis là, elle évoque, elle dit « Ouais, ben c'est parce que c'est une femme noire que vous ne me croyez pas. » Je ne sais pas si c'était cet élément-là qu'on voulait amener, une espèce de discours un peu raciste.
Okay.
Mais je n'ai pas trop compris cet argumentaire-là. Mais bon, comme je n'ai pas compris qu'on a fait jouer Cléopâtre par une femme noire là, il y a quelques années dans une série qui avait choqué tout le monde. Puis l'argumentaire du réalisateur, c'était pour se venger du cinéma qui avait, dans les années 40 ou 50, utilisé des acteurs blancs,
pour
américains, pour leur faire jouer soit du blackface ou soit pour faire jouer Jean Giscard et autres. Ouais, mais tu sais... C'est un peu niaiseux.
Il
ouais,
faut
là,
toujours se méfier.
Ce discours-là politique, je veux bien que tu l'aies, le discours politique, mais là, de là, pour te venger, t'as utilisé une actrice noire pour incarner Cléopâtre. Et c'est d'ailleurs, cette série-là, Cléopâtre, est la série la plus mal cotée sur Rotten Tomatoes.
Okay.
Et ça a soulevé, ça a choqué à la fois les Égyptiens, ça a choqué les historiens. Parce que, bon, Cléopâtre, il faut quand même le dire, là, c'est la dynastie des Ptolémées, qu'on dit l'Agide, et elle est une des descendantes d'Alexandre le Grand, c'est une grecque, elle est blanche, le doute n'est pas permis. C'est aussi stupide, ce discours-là, que si moi, demain matin, je faisais un film sur, Martin Luther King, puis je ferais incarner Martin Luther King par Tom Cruise.
Hein. Non, c'est ça.
C'est inacceptable, c'est ridicule. Je veux beau vouloir te venger de ce que tu voudras, là. Venge-toi dans ton salon, là, mais ce discours-là est d'une platitude là, déconcertante. Mais bref...
C'est souvent des gens que c'est pas leur combat non plus qu'ils se l'approprient. Là. C'est une remarque générale.
Bon, tu sais, mais là, tu sais, c'est pas comme. Tu sais, je me rappelle qu'il y a eu un débat à mon nez parce que Walt Disney ont fait un remake de La Petite Sirène. Puis là, la petite sirène était métisse. Mm-hmm. Hey, réveillez-vous, la petite sirène n'existe pas.
Là. Ouais, ça c'est fictif. Là.
Ouais, c'est un personnage fictif. Ça a beau être un conte d'Anderson, tu sais, la petite sirène n'existe pas. Mais Cléopâtre, là, c'est un personnage historique, ça, là, comme Martin Luther King, comme. Tu peux pas transgresser l'histoire de cette manière-là parce que t'as une petite crotte sur le cœur. À un moment donné, en tout cas, bref, j'avais trouvé ça d'une insignifiance, l'argumentaire qui avait été évoqué. Mais tout ça, donc, bref, dans ce film-là, il y a, ça met en vedette, là, notamment, c'est Andra Day, une actrice afro-américaine qui incarne Latoya Ammons, même si on a changé les noms, et Glenn Close qui joue sa mère. Donc, dans l'histoire, le film, bon, cet argumentaire-là du très religieux, il est amené, il est très important. Et puis, bon, mais c'est à peu près tout, là, le reste. On est dans la pure fiction. Les bondieuseries se multiplient, ça, c'est un peu vrai. Mais le film en soi, j'ai trouvé ça un peu déplaisant parce que... Et là, je te donne mon avis de cinéphile, là, tu sais, là. Mais dans ce type de film-là, de possession diabolique, il serait peut-être temps qu'on abandonne ça ou qu'on réinvente le genre.
Okay.
Tu sais, parce que, tu sais, les yeux noirs, là, puis la langue qui sort, là, depuis l'exorciste, en 73, on n'avait jamais vu ça. Quand l'exorciste a été fait, en 73, puis il est sorti au cinéma, on était impressionné par ça, là, Linda Blair, avec sa grande langue, puis avec les insinités qu'elle disait, là, tu sais, là. Bon, là, en 2024, là, on nous ressort
les mêmes
affaires, la même recette. C'est un peu éculé, ça. Je me rappelle, à un moment donné, la nouveauté, rappelle-toi, ça fait peut-être quand même quelques années, mais quand était sorti le film The Ring, hein, Le Cercle, au cinéma, qui est une adaptation de Ringo, qui est un film japonais, là, on nous présentait le fantôme japonais, hein, les fantômes japonais, là, genre adolescente, les cheveux noirs dans le visage, puis l'œil, il y a un œil qu'on voit à travers les cheveux, à peu près, là, tu vois le genre.
Oui.
Et là, c'était un peu nouveau, ça, tu sais, le fantôme japonais, ça, dans le cercle, ça avait bien marché. Et là, d'un coup, on s'est mis à faire un paquet de films de fantômes avec toujours le même type de fantôme japonais. Tu sais, The Darkness, L'eau sombre, le ci, le ça, Ring 1, Ring 2, Ring 3. Là,
on abuse des formules gagnantes.
Ouais, tu dis, à un moment donné, là, le fantôme japonais, c'est intéressant dans le cercle 1, là, mais tu es rendu au cercle 23, là, on commence à être un peu tanné de cette formule-là.
Mais c'est justement curieux parce que l'histoire dont tu nous racontes, Christian, des Ammons, ça arrive dans une période, début des années 2010, où on commençait à avoir beaucoup d'activités paranormales aussi comme film.
Ouais,
il y a un drôle de lien à faire quand même, là.
Ouais, et dans je vais me limiter à ça pour la critique du film. Je veux que les gens le regardent. C'est disponible. Ceux qui sont abonnés à Netflix peuvent le voir maintenant. C'est disponible depuis aujourd'hui. Donc, je laisse les gens. Le film a été réalisé, mentionnons-le, par Lee Daniels, qui avait déjà réalisé en 2013 Le Majordome, qui mettait en vedette Forest Whitaker et Oprah Winfrey, qui est un excellent film.
Okay.
Cette fois-là, je dirais que c'est un peu moins bien réussi. Là, moins bien réussi dans la mesure où il n'y a rien de nouveau, puis il manque un peu de subtilité, là. Moi, je me rappelle, là, peut-être que je suis peut-être trop accroché à l'exorciste, mais tu sais, il y avait des subtilités dans l'exorciste, là. Tu sais, quand à un moment donné, elle dit qu'elle est le diable, mais elle est tout en même temps, et on voit apparaître l'image de Pazuzu à un moment donné dans le film, et qui montre bien que elle n'est pas que le diable, elle est le diable, mais le diable dans son intégralité, hein. Et Pazuzu, c'est le prince des ténèbres, mais dans la culture sumérienne, hein, tu comprends? Donc, c'est l'ancêtre de tous les démons, et c'est ça qu'on voit apparaître dans le film L'Exorciste. Puis il y a des subtilités, à un moment donné, dans L'Exorciste, il y avait une scène, hein, puis on voit ici la subtilité, à un moment donné, alors que Linda Blair, qui joue la possédée, elle regarde Milner qui joue le prêtre Carras. Et là, à un moment donné, elle ouvre, il y a comme un tiroir qui s'ouvre, tout ça, un tiroir de bureau qui s'ouvre, là, il le referme. Puis là, il la regarde, puis il dit, est-ce que tu peux le refaire? Puis là, il dit, pas maintenant. Tu sais, il y a comme cette subtilité là, ici, là, c'est très important. C'est un tout petit détail, mais ça montre qu'on ne commande pas au diable. Hein? Il fait ce qu'il veut quand il a envie de le faire. Et ça, c'est ce genre de petite subtilité. Mais là, c'est vrai, T'sais, les gens diront, oui, mais t'sais, c'est William Peter Blatty qui a écrit le roman, qui a scénarisé le film. Le film a été réalisé par Friedkin. C'est un maître dans ce domaine-là. C'est sûr qu'on est à un autre niveau. Mais il y avait des subtilités dans les échanges qui étaient remarquables. Alors qu'ici, il n'y a rien qui est de la subtilité. Là. C'est le gros film de « je suis possédé par le diable et sort de ce corps Satan ». C'est vraiment, on est vraiment à ça. Ce qui m'a un peu étonné dans le film, et ça, il faut quand même le mentionner, il y a un mensonge éhonté. Là. Et ça ne fait pas partie du scénario. Là. Quand le film se termine, bon, évidemment, dans plein de ces films-là, lorsqu'on arrive à la fin, juste avant le générique, on nous donne un peu le lien, hein, l'amorce avec la réalité. Alors ouais. Là, dans ce film-là, c'est ce que l'on fait. On voit une photographie de Latoya Ammons. Et là, on nous dit, ben, ce film est basé sur l'histoire de Latoya Ammons. Bon, parfait. Et là, tout d'un coup, on voit une photo de la maison, la vraie maison de l'époque, le 3860 Carolina Street. Et là, on nous dit, après le départ des Ammons en 2012, la maison est restée abandonnée jusqu'à ce qu'elle soit détruite en 2016. Ce qui n'est pas vrai du tout, là. Ça, c'est pas vrai, là.
Il y a d'autres personnes qui ont habité dedans?
Ben oui, absolument, là. Avant les Ammons, il y avait des gens qui ont habité là. Et après les Ammons, il y a des gens qui ont habité là également. Et c'est là qu'on arrive un peu à ton lot vacant et la fraude.
Ouais.
Ce que moi, je n'hésite pas à parler d'une fraude, c'est qu'à un moment donné, quand cette histoire-là... En fait, l'histoire des Ammons n'a pas été connue durant la période même des événements. On a commencé à en parler, surtout à partir de 2014. À ce moment-là, les Ammons avaient déjà quitté les lieux depuis 2 ans. Il y avait de nouveaux locataires qui habitaient là. Et la maison est une maison de location. Le propriétaire, qui est un monsieur Reed, Charles Reed, ben lui, évidemment, il avait annulé le bail. Les Ammons n'ont jamais prétendu que leur maison était hantée. Ça, c'est très important.
Ah, ouais.
Ils ont quitté la maison faute de paiement de loyer. C'est pour ça qu'ils ont quitté la maison.
Oh,
pas parce que
bulle,
la maison
hein?
était hantée. Oui, ça pète une bulle. Et là, M. Reed avait loué la maison à de nouveaux locataires. Donc, après les Ammons, il a toujours précisé qu'avant les Ammons, les gens qui avaient habité là n'avaient jamais prétendu que la maison était hantée. Il n'y avait jamais rien qui s'était passé là. Et les nouveaux locataires qui ont habité après les Ammons n'ont rien rapporté de mystérieux. Alors là, quand on voit une photo de la maison dans le film pour nous dire qu'après les Ammons, la maison n'a jamais été réhabitée, bien, elle a été détruite. Oh, là, on joue avec les vérités, parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Après que les Ammons ont quitté, la maison a été louée à de nouveaux locataires. Et éventuellement, le propriétaire, l'histoire a commencé à être parlée dans les journaux, on a commencé à l'évoquer dans les journaux. Des gens se rendaient sur place pour prendre des photographies de la maison ou allaient même jusqu'à déranger les nouveaux locataires qui habitaient la maison. Et la maison, comme je l'ai mentionné, c'était une maison qui faisait partie d'un quartier très défavorisé et elle avait besoin de solides réparations. Alors, à ce moment-là, comme l'histoire circulait beaucoup dans les médias, il y a un type aux États-Unis qui s'appelle Zach Bagans. Je ne sais pas si ce nom-là t'a dit quelque chose.
Non.
Zach Bagans est un chasseur de fantômes et il est l'artisan derrière une série qui joue sur le réseau Travel, je crois, aux États-Unis, qui s'appelle Ghost Adventures. Et il a son propre musée du paranormal à Las Vegas. C'est un entertainer. Voyons ça comme ça. Et là, donc, Bagans entend parler que le propriétaire serait prêt à céder, à vendre la fameuse maison de Gary en Indiana. Donc, il décide de prendre contact avec lui et il va l'acheter pour 35 000 $. Et c'est là qu'on tombe dans ce que moi j'appelle une escroquerie épouvantable. Donc, Bagans achète la maison. Évidemment, les locataires qui sont là sont expulsés.
Bon.
Donc, il a la maison à lui. Et il va tourner appelons ça un documentaire pour rester poli.
Un documentaire,
ouais. Un documentaire qui va appeler Demon House. Donc, et là, si tu n'as pas vu ce documentaire-là, ça sent la manipulation en plein nez. Là,
okay.
Avant, personne s'est plaint de fantômes. Les Ammons habitent là, c'est plein de fantômes. Les Ammons quittent. Les nouveaux locataires disent qu'il n'y a pas de fantômes. Et là, lorsque Zach Bagan lui rentre dans la maison, dès qu'il franchit le seuil, là, il est pris de tremblement. Ah, c'est épouvantable. Les esprits m'assaillent de partout. Et là, tu regardes ça, c'est d'une médiocrité. Là. Pendant une heure et demie, là, si tu as la patience de regarder regardez ça, il s'assoit, il met comme une petite table avec une chaise, puis un lit quelque part. Puis là, c'est comme le défi, je vais passer 24 heures dans la Demon House. Puis là, on le voit, là, c'est tout tourné, bien sûr, en noir et vert, là, dans l'obscurité.
Oui.
Là, puis là, il est sur le lit, puis là, il se met à parler. « Qui êtes-vous? Parlez! » Ben, là, il crie, il hurle, il se roule à terre. Mais c'est d'un ridicule. Là. Et après qu'il a fait ça, là, il fait détruire la maison. Ils engagent des pipelines, des camionneurs, là, puis ils brisent toute la maison, ils détruisent la maison. Fait que les dernières séquences de son documentaire, c'est la maison qui se fait briser. Et là, évidemment, t'es surpris, tu dis, écoute, à travers le monde entier, les parapsychologues rêvent de ça. Hein? Les parapsychologues du monde entier rêvent d'avoir un laboratoire in situ où ils pourraient se rendre, enquêter sur des phénomènes paranormaux, les documenter. Et à écouter Zach Bagan, ces phénomènes-là sont omniprésents là, parce qu'il n'y a pas une journée qui va, lui, dans son documentaire, qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Il y a toujours une porte qui s'ouvre, qui claque, un lit qui flotte, les démons qui prennent possession de lui. C'est épouvantable, une pépinière à phénomènes paranormaux. Alors tu te dis, mais pourquoi? Au lieu de la détruire, si c'est vrai qu'il y a des phénomènes de ce type-là, je veux dire, loue-la à des parapsychologues du monde entier, ils vont se faire un plaisir de la louer pendant un mois pour aller s'installer là pour essayer de documenter. Et quand on pose la question, quand un journaliste ose poser la question à Zach Bagans, il joue un peu, c'est un comédien. Et là, il joue devant la caméra, il dit, ah, vous savez, les démons qui sont dans cette maison-là là, étaient tellement graves, dangereux, que les parapsychologues qui seraient venus auraient mis leur vie en danger.
Bon.
Je pouvais pas faire ça. Mais, un prix de consolation, mon DVD de Demon House se vend 29,95 $. Il est disponible sur Amazon. Quelle escroquerie, mais épouvantable. Puis là, je me retiens parce que tu connais mes montées de lait. Mais
oui.
Quelle escroquerie épouvantable. Encore une fois, sur le dos de phénomènes soi-disant paranormaux. Et là, je ne jette pas la pierre aux Womans. Je ne sais pas ce qui s'est passé là durant les deux années. Il y a quand même des éléments qui sont intéressants. Hein? Si on revoit l'histoire des Womans, bon, donc eux emménagent, on est quelque part en 2011. Ils vont commencer à rapporter des phénomènes étranges. C'est une famille très... Puis là, comme j'en ai déjà parlé, puis je sais qu'il y a peut-être des auditeurs qui étaient présents lorsque j'en avais parlé il y a quelques années avec Marceau. Je ne veux pas être redondant, mais... Rappelons les grandes lignes, c'est une famille qui est très dysfonctionnelle. Hein? Déjà, elle, Mme Hammonds, a fait l'objet de plusieurs plaintes à la protection de l'enfance. Et parce qu'elle a des problèmes de consommation et ses enfants fréquentent l'école comme je te pousse. Là,
ouais, déjà, j'ai un drapeau rouge, c'est du problème de consommation, possession
ouais,
en maison.
Et à plusieurs reprises, et ça d'ailleurs, on le voit dans le film, hein, que le département de la protection de l'enfance fait des visites régulières chez elle, on lui reproche toutes sortes de choses. Dans la réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui nous amène à un événement phare dans cette histoire. Là. Puis je n'ai pas à me prononcer, tu comprends, j'étais pas là. Mais quelque part en décembre 2011, donc alors que les Hammonds prétendaient qu'il y avait des phénomènes mystérieux qui se produisaient chez eux, ils en avaient parlé à leur confesseur, ils avaient même demandé à ce que des médiums viennent sur place. Puis les médiums avaient dit, un des médiums avait dit, il y a au moins 200 fantômes dans votre maison. Là. Ça commence à faire beaucoup. Et là, tout ça était au sous-sol, donc Madame Latoya Hammonds avait installé au sous-sol une espèce d'hôtel avec des statuettes, tout ça, pour essayer de chasser les mauvais esprits.
Okay.
Et puis arrive cet événement phare que l'on voit d'ailleurs dans le film, ils l'ont reproduit assez bien. À un moment donné, en décembre 2011, la protection de l'enfance va chez les Hammonds. Et là, bon, on reproche à Latoya Hammonds de ne pas envoyer ses enfants à l'école. Puis là, comme je te le rappelle, hein, ce sont des enfants qui sont en bas âge de 7, 9 et 12 ans.
Mm.
Donc, selon les lois américaines, ils doivent fréquenter une institution d'éducation. Ils ne le font pas. Ces enfants-là sont également très troublés, très perturbés lorsqu'ils fréquentent l'école. Et donc là, on décide de les mettre en examen. Donc, les enfants sont retirés de chez Mme Hammonds. Ils sont amenés dans un centre de la protection de la jeunesse. Ils sont confiés à une équipe sur place avec des médecins. Et là, j'ai devant moi là, un document qui est signé par Valérie Washington, qui est le rapport que la protection de l'enfance a remis aux autorités pour savoir si oui ou non on allait retirer les enfants de la garde de Mme Hammonds. Et il y a plusieurs trucs là-dedans qui sont racontés qui sont assez incroyables, mais il y en a un qui est très particulier, puis je comprends qu'on l'ait reproduit dans le film. Je te le lis Et là, on va voir, les gens pourront en tirer ce qu'on veut. Là. J'ai le document entre les mains, donc je lis textuellement ce qui est écrit. Là. C'est marqué « Un des enfants, 9 years old, state that ghosts are attacking him and his brother. Child became aggressive and walk up the wall as he was walking on the floor and did a flip over a grandmother. This episode was witnessed by a psy counselor and DCA worker et Madame Washington. » Donc, okay. L'enfant disait qu'il était attaqué par des fantômes, lui et son frère, et l'enfant est devenu agressif. Il s'est mis à marcher de reculons. Il a marché sur le mur comme s'il marchait sur le plancher. Et à un moment donné, il a fait un soubresaut dans l'air et passé par-dessus sa grand-mère. Et cet épisode a été observé par le psychiatre conseiller qui était là, un employé du Centre de protection de la jeunesse et également Mme Washington qui signe le fameux rapport. Et là, je ne te lis que ce passage-là. Il y a plusieurs événements à caractère presque surnaturel, qui sont rapportés durant cette période d'observation des enfants. Bon, j'étais pas là. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Je ne sais pas. C'est textuellement comme ça que c'est écrit dans le rapport. C'est le rapport qui a été remis aux autorités. Éventuellement, les enfants ont été retirés de la garde de Mme Hammonds, mais ils lui ont été remis après quelques semaines. Ce que les psychologues et les psychiatres qui s'étaient penchés sur l'histoire, eux, ont conclu. Évidemment, on s'attendait pas à ce qu'ils concluent qu'il y avait des fantômes dans la maison, mais eux ont conclu que tout ça faisait partie. On n'explique pas l'épisode, hein, c'est-à-dire que les psychologues et les psychiatres qui donnent leur avis ne détaillent pas chaque événement. Donc, ils ne reviennent pas sur j'aurais bien aimé quelle était leur explication de l'enfant qui marche sur le mur à reculons, mais on ne revient pas sur cet épisode-là. Mais okay. De façon générale, ce qu'eux disent, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a une espèce de délire qui s'est installé dans la famille. Hein. Madame Hammonds croit que la maison est hantée. Ses enfants sont excessivement réceptifs à ses messages, influençables, et ils vont se mettre à se comporter comme ce que leur mère, attendrait d'eux. Hein, elle leur dit qu'ils sont possédés et comme un enfant possédé parle avec une voix gutturale, il crache, il fait des convulsions. Donc, les enfants agissent comme s'ils étaient possédés parce que leur mère prétend qu'ils sont possédés. Malgré cela, dans le fameux rapport, là, je ne peux pas tout te le lire au complet, mais à un moment donné, Madame Hammond est elle-même amenée chez les conseillers et là, elle fait une... Bon, il y a un des enfants, ici, je vois, c'est marqué « I will kill you », puis là, il commençait à courir dans la chambre en disant qu'elle allait tuer... il a frappé sa grand-mère à l'estomac. À un autre moment donné, Madame Hammonds, alors qu'elle rencontre les psychologues, elle se met à parler d'une voix gutturale, la tête se renverse à l'arrière, les yeux sont révulsés. Donc, il y a des comportements. Si j'étais un psychologue ou un psychiatre, je parlerais probablement pas de possession diabolique, mais je parlerais certainement d'un syndrome de possession. Hein, c'est-à-dire okay. que tous ces gens-là se comportent comme s'ils étaient réellement possédés par des entités malveillantes ou invisibles. Néanmoins, donc, comme je l'ai mentionné, ces événements-là se passent en quelques mois. Hein. Les Hammonds emménagent au courant de l'été 2011 et ils vont quitter au printemps 2012. Donc, ils vont habiter les lieux pendant moins d'une année. Les événements dont je te parle, là, qui sont mieux détaillés, ce sont les événements alors que le service de la protection à l'enfance s'est impliqué dans le dossier. On est en décembre 2011 à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a des événements qui sont rapportés qui semblent tout à fait extraordinaires. Après le départ des Hammonds, Mme Hammonds va emménager du côté d'Indianapolis avec ses enfants et elle ne rapportera pas d'autres événements semblables. Elle va donner quelques entrevues à la presse. Et c'est là, en fait, que l'histoire, c'est assez curieux parce que c'est par l'entremise de différentes personnes que finalement l'Indianapolis News va commencer à parler de cette histoire-là. Hein. Puis là, on est déjà 2 ans après les événements. Hein.
Okay.
Quelqu'un qui connaît quelqu'un parle à un journaliste, il dit « J'ai ma voisine qui vivait à Gary entre 2011 et 2012. Il y a des phénomènes étranges qui se sont produits chez eux. » Là, on est un peu dans le cadre d'un... Tu sais, à l'Halloween, par exemple, tu as tout le temps les journaux qui veulent des bonnes histoires de fantômes. Oui. Et c'est un peu dans ce cadre-là que l'histoire apparaît. Et là, les journalistes vont prendre contact avec Mme Hammonds. Et là, elle va leur confier ce qui s'est passé à Gary. Et là, évidemment, ça fait boule de neige. Et c'est là que, éventuellement, Zach Biggins va décider d'acheter la maison avec... et mener cette espèce d'escroquerie là, avec son faux documentaire. Mais après ça, dans le cadre des entrevues qu'elle va donner, donc à partir de 2014, où elle va décrire les événements qui se sont produits dans la petite maison de Gary, elle prétend pas que d'autres phénomènes semblables l'ont poursuivi. Hein? Elle dit ces événements-là se sont produits à Gary. Il y a même un prêtre, à un moment donné, le père Maginot, qui va se rendre sur place, qui va faire un exorcisme. D'ailleurs, il va témoigner dans des entrevues, parce que les journalistes vont le retrouver. Il va raconter effectivement qu'il s'est rendu sur place, avait senti des influences négatives, avait procédé à un rituel d'exorcisme, et que depuis, donc, la maison était libérée. Et Mme Hammons n'a pas raconté d'autres histoires semblables. C'est vrai qu'en même temps, il faut quand même mentionner qu'à l'époque, lorsqu'elle s'ouvre à la presse en 2014, elle va raconter ces événements-là, mais très rapidement, elle va s'imposer, si je peux dire, le silence, dans la mesure où elle admet aux journalistes qu'elle est en négociation à partir du moment où l'histoire a fait la une des journaux, on en a parlé, ça fait la manchette, et à partir de là, elle dit qu'elle a été contactée par des gens à Hollywood qui lui ont demandé d'être discrète parce qu'éventuellement, on songeait à porter à l'écran son aventure.
Okay.
Bon, il faudra visiblement 10 ans là, qui se sont écoulés entre les moments où elle s'étanche devant la presse et le moment où le film est sorti à Netflix. Mais bon, quand on regarde le document, c'est un document assez volumineux, le fameux rapport qui a été produit par la protection de la jeunesse et remis au procureur local. Il y a des événements là-dedans qui sont visiblement très mystérieux. Et pour les psychologues et les psychiatres, tout ça découle d'une forme d'hystérie collective qui s'était installée dans la maison, même si pour les puristes, et je peux les comprendre, même si pour les puristes, cette explication-là ne résout pas certains événements qui sont rapportés noir sur blanc dans le document, sur, à la fois sur des comportements, mais également sur des actions comme celle-là, par exemple, très spectaculaire, où un enfant aurait marché à reculons sur le mur. Là,
celle-là est dure à expliquer, en effet.
Oui, c'est ça, c'est difficile de dire, ouais, il y avait une hystérie collective, ouais, puis l'enfant qui marchait sur le mur,
il
était hystérique. Oui, il était hystérique, il faisait des backflips, puis il était hystérique. Bon, je peux comprendre que là, on arrive un peu dans une espèce de cul-de-sac. Puis c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, le film est sorti, on en a discuté un peu sur ma page Facebook Inexpliqué. Des gens m'ont parlé de ça, puis là on me disait, ah oui, il y a un article notamment qui avait été publié par le Skeptical Inquirer sur cette histoire-là. Et puis là, j'ai dit, il faut faire attention parce que le Skeptical Inquirer, qui est le journal des sceptiques américains, hein, ces gens-là, ben, évidemment, ils vont toujours focaliser sur des événements qui justifient leur explication. Hein. Fait que là, je dis, dans l'article du Skeptical Inquirer, il souligne à gros traits que Madame Hammons avait peut-être des problèmes de consommation,
ouais,
que Madame Hammons a réussi à convaincre ses enfants qu'ils étaient possédés, que Madame Hammons ne payait pas son loyer, mais il mentionne à peu près rien sur le fameux rapport de la protection de l'enfance qui parle de ces événements que je viens de te raconter. Donc, tu vois, on choisit ce que l'on veut bien nous raconter.
On tourne les coins ronds un peu.
Oui, c'est ça. Donc, il faut faire... Puis c'est vrai des deux côtés. Hein. Je veux dire, là, je te raconte ça comme ça. Puis j'ai vu des articles qui parlaient de cette histoire-là. Et évidemment, Mme Hammons était décrite comme une sainte, puis elle payait son loyer, puis il n'y avait pas de problème. Puis ben là, tu sais, à un moment donné, c'est la vérité se passe entre les deux. Là. Tu sais, là, je pense que chacun tire un peu la couverture de son bord en voulant faire accroire son explication. Mais dans les faits, moi, j'aurais tendance, évidemment, par le bon sens, de se dire, ben voilà, c'est probablement un phénomène d'hystérie qui s'est incarné dans la famille à travers le discours excessivement religieux de Mme Hammons. Mais il y a certains événements qui sont rapportés que je n'arrive pas à expliquer. Ou bien ces gens-là... Ben, j'avance même pas d'explication. Je ne sais pas, ces gens-là. Si on m'avait dit qu'il y avait un témoin, parce que je dis souvent, il faut faire attention, parce que les témoins ont tendance à colorer des événements, et surtout lorsque ces événements sont racontés des années après les faits,
ouais.
Alors qu'ici, c'est pas le cas. Là. Ici, on a un rapport qui est... dans un premier temps, qui a été observé par plusieurs témoins, hein, des professionnels qui étaient là. Donc, et ces témoins-là confirment le document en question. Et ensuite de ça, ces événements-là ne sont pas rapportés des années après Tu comprends, ces événements-là sont rapportés par les gens. Tu sais, le document là, dont je te parle, ça se passe en décembre. Les événements dont que je te raconte se passent en décembre 2011. Et le document que j'ai entre les mains, qui était remis à la cour, date du 23 avril 2012.
Okay.
Ça veut donc dire que entre le moment où ce rapport est remis au tribunal, je ne sais pas à quel moment il a été rédigé, mais il y a à peine 4 mois qui se sont écoulés entre ces événements et la remise du document au tribunal. Donc, en 4 mois, même si les souvenirs commencent déjà 24 heures après les événements, souvent les souvenirs peuvent commencer à se colorer. C'est pas aussi vite que ça. Là. Entre un enfant qui marche puis s'en va à la salle de bain, puis un enfant qui marche sur le mur jusqu'au plafond, il y a comme un monde entre les deux. Là, là, donc, puis d'ailleurs, il faut faire attention parce que quand je dis le témoignage, il se colore facilement et il est très imprécis. C'est vrai, mais c'est vrai surtout dans la mesure où le témoin observe quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que si toi, tu es dans une banque et un agresseur, par exemple, entre pour un vol à main armée, l'environnement, tu le connais bien. Tu sais, tu vois que ce sont des caissières, c'est un environnement, la banque, tu y vas à la banque, tu connais la banque.
Ouais.
Donc, ton souvenir va être plus précis que si tu te retrouves, par exemple, dans un environnement que tu ne connais pas du tout. Par exemple, tu assistes à un vol à main armée, mais dans un restaurant quelque part en Thaïlande. C'est la première fois que tu vas là. Ton souvenir va devenir beaucoup moins plus imprécis parce que c'est pas des endroits que tu connais bien, donc tu n'arriveras pas à retenir l'ensemble de tous les détails. Mais dans le cas présent, on est dans un environnement que ces gens-là connaissent. Hein. Ce sont des employés du centre de la protection de l'enfance. On est dans un centre d'évaluation psychologique. Les médecins, les infirmières, les infirmiers qui sont là connaissent bien l'environnement. Ils sont témoins de cet événement-là. C'est sûr qu'en rédigeant le rapport, 2 ou 3 mois, il y a peut-être des détails qui leur ont échappé. Ils ont peut-être été un peu colorés, exagérés, mais on est quand même proche de l'événement et surtout un événement qui s'est produit dans un environnement qu'ils connaissaient bien. Donc, je ne sais pas, j'ai pas de... C'est une histoire qui est très intrigante, cette histoire-là de Mme Hammonds. Ce qui est un peu dommage, c'est ce qui s'est produit par la suite. Hein. Bon, quand on la remet dans son contexte, on a déjà une famille qui est très dysfonctionnelle,
ouais.
Mais surtout, je pense que l'élément le plus dérangeant avec cette histoire-là, c'est l'histoire de Zach Bagans. Le fait qu'il ait racheté la maison, puis là, il nous a fait un peu son espèce de show au milieu de la maison en noir et blanc. Ça, c'était d'un ridicule absolu.
De l'opportunisme pur.
Oui, oui. Et tellement que ça discrédite complètement cette histoire-là. Parce que quand on parle de l'histoire de Mme Hammonds, la Toy Hammonds, la première chose qui nous vient en tête, et moi, si tu m'en parles, la première chose qui me vient en tête, c'est l'histoire du documentaire de Zach Bagans. C'est la première chose qui me vient en tête. Et ça, c'était d'un tel ridicule que ça fait perdre toute crédibilité à l'histoire. Et je voulais le préciser, il y a quand même des éléments dans cette histoire-là qui sont assez intrigants, sans pour autant nous forcer à croire en la possession diabolique.
Un divertissement à prendre avec un grain de sel, la délivrance sur Netflix.
Ouais. Et sur ce, ben, on va faire une pause si tu veux bien, puis après ça, je te parle du monstre du lac Champlain.
Oh, restez là!
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour dans les Radio X-Files, maintenant jusqu'à 20h30. Et Christian, tu veux nous parler de notre monstre du Loch Ness à nous?
Il s'appelle le monstre du lac Champlain. Écoute, juste pour te dire, pendant la pause, je feuilletais le document dont je te parlais un peu plus tôt. J'ai trouvé un autre pépite. Là,
Je
fais que tu allais lire comme ça, c'est marqué. Bon, le groupe médical a rapporté que pendant que l'enfant était sous surveillance au bureau du médecin, le personnel qui était là ont vu l'enfant être soulevé du sol et lancé sur le mur sans que personne ne lui ait touché.
Ben voyons donc.
Ouais, une belle pépite. Oui, cela étant, on revient à notre monstre du lac Champlain,
oui.
Qui a fait parler de lui au cours des dernières semaines parce que il y a un film qui a été tourné, c'est une très courte séquence qui dure à peine 12 secondes et qui a été tourné par un drone. Hein, on en a beaucoup parlé dans les radios et tu le comprendras, le long du lac Champlain, autant du côté du Vermont que de l'État de New York. Et donc la séquence dure à peu près 12 secondes. Elle est tournée, je dirais, à peu près à une 25 mètres peut-être au-dessus de la surface de l'eau. Donc on est assez haut. On voit une chaloupe avec une ou deux personnes à bord. Et là, on voit peut-être à une une vingtaine de mètres derrière la chaloupe. On voit une forme sous l'eau qui se profile. Et puis, bon, la séquence s'arrête à ce moment-là. Et là, tous les médias américains, là, et radio, télévision, le long du lac Champlain, tant du côté du Vermont que de l'État de New York, ont présenté la séquence. Ils en ont parlé. Est-ce qu'on a filmé Champ, le fameux monstre du lac Champlain? Et j'aurais tendance à dire, attention, on est peut-être enthousiaste, un peu trop vite. Hein. On fait preuve d'enthousiasme beaucoup trop vite parce que ce film-là, il faut savoir, il a été tourné par un type qui s'appelle Richard Rossi. Et le film a été tourné durant un film. Et je t'explique. Okay. Donc, et tu vas comprendre que là, ça, comme on dit, ça lève un flag. On va lever le drapeau. Ce Richard Rossi, c'est un auteur, réalisateur, scénariste, et il a écrit il y a 2 ans un ouvrage pour enfants qui s'appelle Lucy and the Lake Monster.
Oh.
Mm-hmm. Ça sent pas bon déjà.
Non, hein?
Et Lucy and the Lake Monster raconte l'histoire d'une orpheline qui se retrouve avec son grand-père et qui décide avec son grand-père de se lancer à la chasse au monstre du lac Champlain, hein, à Champ, et ce malgré les colibets dont elle est victime à l'école et tout le reste. Donc, ce fameux Richard Rossi a décidé de réaliser un film, de porter à l'écran, au petit écran, parce que c'est un film très amateur, de mettre en image ce fameux livre qu'il a écrit il y a 2 ans et qui a été publié pour les enfants. Donc, il s'est d'ailleurs lui-même donné un rôle, hein, Richard Rossi, dans le film qu'il est en train de tourner, qui va s'appeler, bien sûr, tu l'auras deviné, Lucy and the Lake Monster. Il s'est donné le rôle du grand-père qui accompagne sa petite-fille à cette quête du monstre du lac Champlain. Et là, il dit que c'est durant les tournages de ces séquences-là qu'avec un drone, il aurait filmé au-dessus du lac, le fameux monstre du lac Champlain en question. Mais quand tu fais une recherche un peu plus poussée sur Internet en utilisant Lucy and the Lake Monster dans ton outil de recherche, assez rapidement tu tombes sur une page de sociofinancement.
Donc, pour le film.
Effectivement, pour le film, parce que le type est en train de tourner son film. Le film n'est pas encore complété. Il est à l'état, semble-t-il, de la post-prod, mais on a besoin de sous pour terminer le travail et donc on demande aux gens de donner pour terminer le film en question. C'est quand même curieux que, évidemment, avec tout l'intérêt que soulevait la présentation du film, dans les médias et dont on a parlé aussi beaucoup à la radio, hein, du côté du Vermont ou de l'État de New York, bien évidemment, ça suscite énormément d'intérêt. Les gens vont sur les médias sociaux, tombent sur le site de Lucy and the Lake Monster, puis là, bien évidemment, il y a cette donnée un petit 10$, un petit 5$, un 20$. Je ne suis pas convaincu qu'il y aurait eu cet achalandage s'il n'y avait pas eu toute cette histoire de « on a filmé le monstre du lac Champlain », tu comprends?
Okay,
évidemment, ça soulève un questionnement. Bon, est-ce que la séquence filmée, c'est un coup de pub pour essayer d'attirer des gens, pour alimenter davantage le sociofinancement? Puis c'est quand même étonnant parce que le monstre du lac Champlain, même s'il est très connu, il n'existe pas beaucoup d'images et de photos du monstre du lac Champlain. Alors, tout ce qui circule à peu près, c'est toujours une espèce de remous à la surface de l'eau. Jamais rien de très précis. Puis souvent, ces remous, mais évidemment que pour les gens, les riverains, les gens qui connaissent bien les lacs, bon, c'est bien que deux chaloupes, par exemple, à 2 kilomètres de distance vont faire des vagues. Et quand les vagues se rencontrent, si toi, tu es sur la berge puis tu n'as pas vu l'un ou l'autre des canots ou des chaloupes, à moteur, évidemment, on comprend qu'il faut un certain déplacement, une vélocité du bateau sur l'eau. Là. Mais quand les vagues se rencontrent, ça crée une espèce de remous. Fait que si toi, tu ne vois que le remous, ben, tu dirais, hey, voilà, j'ai vu un curieux remous, est-ce que ça pourrait être le monstre du lac Champlain? Bon, et ça alimente toute la controverse. Puis il faut quand même dire que le monstre du lac Champlain porte son nom Champ, et son histoire, on nous l'a fait remonter au 17e siècle. On nous dit que Samuel de Champlain aurait vu le monstre.
Ah.
Mais quand tu lis le rapport, le lac Champlain, c'est Samuel de Champlain. Évidemment, il était nommé comme ça en l'honneur du découvreur. Mais quand tu lis le compte-rendu de Samuel de Champlain, il ne fait pas référence à ça. Quand il visite le lac Champlain, là, il ne parle pas qu'il y avait un monstre dans le lac Champlain. Donc, cette histoire-là, elle est fausse. Hein. Quand on dit que Champlain a vu le monstre du lac Champlain, il parle qu'il a vu des gros poissons, mais il n'a jamais vu de monstre dans le lac Champlain. Là. Donc, on falsifie en fait un témoignage historique qui est inexistant. pour donner naissance un peu à ce monstre-là. Mais il faut quand même mentionner que les groupes autochtones qui vivaient dans l'État de New York ou dans l'État du Vermont, eux ont des légendes, effectivement, de monstres lacustres qui sont très anciennes. Mais des légendes de monstres lacustres dans le folklore amérindien, il y en a énormément. Donc, c'est pas forcément un signe. Et quand les gens parlent du monde du lac Champlain, bien souvent les tenants, les cryptozoologues, donc ceux qui s'intéressent à ces histoires de monstres mystérieux, bien ils évoquent souvent une photographie qui a été prise le 5 juillet 1977, une photo qu'on appelle la photo de Sandra Mancy, où on voit le lac Champlain, où on voit une espèce de dinosaure qui semble sortir la tête de l'eau. Ouais, il faut tout de suite tempérer que cette photographie est très, très controversée. Dans un premier temps, Sandra Mancy a jeté le négatif. Hein, c'est curieux, hein, elle parle que des années après de la photo. J'ai pris une photo du monstre du lac Champlain. Ah oui, puis tu vois le négatif. Ben non, je l'ai jeté.
On a un point en commun avec l'histoire auparavant. Hein? C'est comment j'ai sacré la maison à terre. Tu sais.
Oui, c'est ça. Elle a jeté le négatif. Elle a à peu près changé 15 fois son histoire. Hein? Elle raconte jamais la même histoire. Et qui plus est, elle n'a jamais été en mesure de dire d'où elle a pris sa photographie. C'est quand même curieux pour une femme qui a grandi dans cette région-là. On sait qu'elle dit « J'ai pris la photo quelque part là, sur le long de la rive, là, entre Burlington puis Port Henry ou quelque chose comme ça. » Mais finalement, elle a grandi dans cette région-là puis elle n'a jamais été capable de dire à quel endroit elle avait pris la photographie. Uh-huh. Là, c'est quand même curieux parce que si tu ne sais pas d'où la photo a été prise, bien, évidemment, tu ne peux pas évaluer les éléments que l'on voit à l'arrière-plan pour essayer de déterminer une distance. Puis dans les nombreuses histoire qu'elle a racontée, elle a maintenu ben j'étais trop énervé donc je me rappelle pas à quel endroit j'ai pris la photo. Et dans une autre histoire, elle raconte, elle dit, je sais où j'ai pris la photo, mais je veux pas amener les gens, je veux pas le dire parce que les gens pourraient arriver sur place, puis pourraient essayer de tuer l'animal. Ah. Comme si le monstre du lac Champlain, s'il existait, elle n'habitait qu'une partie du lac, tu sais, un peu ridicule.
Puis il n'y aurait pas peur des gens, tu sais, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est, ce qui est un peu aussi amusant, bon, cette photo-là, comme je dis, c'est vrai que c'est la photo la plus célèbre du monstre du lac Champlain, mais bon, il faut la prendre avec des pincettes parce que, bon, il y a plusieurs éléments à propos de cette photo-là qui fait qu'on doit être très, 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 très prudent. Et c'est encore assez étonnant de voir que, malgré la multiplication des appareils, puis je sais que je reviens souvent avec cette histoire-là, mais avec la multiplication des appareils photo, tout le reste, c'est quand même curieux qu'à chaque fois, c'est trop des photos floues, des photos peu convaincantes, alors que dans toutes les autres sphères d'activité humaine, on le sait, l'imagerie a fait un bond de géant. On est capable aujourd'hui de faire de la chirurgie neurologique en utilisant des endoscopes. Et là, mais à trois fois qu'on photographie un monstre, un ovni, c'est toujours des photos floues. Et ce qui est plus amusant, c'est que souvent, ce sont des photos anciennes. C'est-à-dire que dans le cas de Sandra Mancy, hein, on nous dit la meilleure photo du monstre du lac Champlain, c'est la photo de Sandra Mancy qui remonte à 1977, à une époque où on avait des appareils photo argentiques avec des négatifs. C'est un peu la même chose aussi quand on parle du Bigfoot. Les gens font souvent référence au film Patterson-Gimlin qui était tourné en octobre 67, où on voit une espèce de créature, un Bigfoot qui marche devant la caméra, mais encore une fois, on nous renvoie à une époque du film, le ruban et tout le reste, alors qu'aujourd'hui, avec la multiplication des appareils, la qualité des images, aujourd'hui, on a des appareils photo, là, on parle de millions de pixels pour prendre des photographies, mais non, on nous renvoie à une vieille photographie prise par un Instamatic en 1977.
Ah, puis si je veux être vraiment mal intentionné, je te dirais que c'est la photo de Nessie, mais colorisée, là.
Ouais, c'est ça. C'est pas très convaincant. D'ailleurs, la photographie, il y a un élément qui est assez curieux à propos de cette photographie-là. La plupart des experts qui l'ont regardée estiment que la forme que l'on voit, parce que bon, le lac Champlain, on sait à peu près à quel endroit elle l'a pris, même si elle ne dit pas le point précis de la prise de vue, on a à peu près une idée de la largeur du lac Champlain. La plupart des experts s'entendent pour dire que l'objet que l'on voit sur l'image doit mesurer à peu près entre 2 et 3 mètres. C'est pas énorme. Mais par contre, tous ont remarqué que sur la photo couleur, on voit que là où se trouve la forme, l'eau en dessous, elle est beaucoup plus blanchâtre, ce qui laisse supposer un haut fond. Donc, il pourrait s'agir simplement d'un tronc d'arbre qui se retourne dans l'eau, qui est sur un haut fond, et dont elle aurait pris la photographie. On voit une distinction très, très nette entre l'endroit où se trouve la créature. Quand on regarde l'eau, on voit une distinction très nette entre cet endroit-là et un peu plus loin dans le lac, où l'eau devient beaucoup plus foncée, qui montre que le fond est beaucoup plus profond. T'sais. Fait que, bon, bref, c'est, si les gens décident d'aller sur Internet, regarder cette fameuse séquence Lucy and the Lake Monster, cette séquence qui dure 12 secondes, rappelez-vous que par une étrange coïncidence, cette image-là a été tournée par un drone qui tournait un film justement sur le monstre du lac Champlain.
Parce que est-ce qu'il y a un certain tourisme pour ce monstre-là? T'sais, j'ai vu quelques produits dérivés, mais qui ont l'air à aussi avoir de l'âge comme la photo. Là. C'est-tu quelque chose de bête fréquenté?
Je te dirais que si tu vas à Port Henry, dans l'État de New York, il y a comme un gros panneau sur le bord du lac qui rapporte une centaine d'observations du monstre depuis les années 80. Okay. C'est un peu abandonné. Okay. Et il y a un petit commerce, mais ça n'attire pas le touriste. Ça veut dire, si tu visites une boutique, tu vas trouver une boutique, ça va être marqué Burlington ou Plattsburgh. Puis parmi les tasses, ça se peut qu'il y ait une tasse Champ avec l'image du monstre. Mais on le représente, on le reconnaît. Mais de là à prétendre qu'un tourisme où il y a vraiment un commerce de produits dérivés, je ne crois pas que le monstre ait cet engouement-là auprès du public.
D'accord. Bien, Christian, je te remercie beaucoup pour l'épisode de ce soir. La semaine prochaine, tu nous amènes dans l'actualité des phénomènes...
De l'histoire. De la semaine prochaine, donc, on va dans l'histoire. Et d'ailleurs, pour le suspect X...
Oui.
On va aussi aborder bientôt l'histoire.
L'histoire au sens large? On ne prend pas congé.
Au sens large. Oui, on ne prend pas congé. Là.
Lundi prochain, ça va être un nouvel épisode de Suspect X. Je sais que le restant de la programmation de Radio X est en meilleur moment, mais vous aurez du nouveau matériel lundi prochain, 22h, pour Suspect X. Sinon, je vous souhaite un excellent long week-end. Christian, on se retrouve lundi et vendredi prochain pour un autre Radio X Files.
Absolument. Bon week-end à toi.
À toi aussi.